toucher directement.
Alors là, très bonne question.
Quand tu expliques, que ça va
être parce que là, personnellement, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi directement.
Parce que la Torah de Rabbeinu, elle parle avec tout le monde. Qu'est-ce que tu penses? On est entre nous. Tu crois que tu es la seule à avoir des problèmes?
Oui, mais
et est-ce que tu penses que tes problèmes, c'est des problèmes spéciaux et originaux? Pas du tout. Tout le monde les mêmes histoires. Oui, je sais. Tout le monde ne croit pas parce qu'on a toutes les mêmes histoires, toutes les mêmes problèmes. Tout le monde, sauf que c'est des ambiances différentes, des endroits, des personnes en face de nous différentes. Toi, tu te sens différent des autres, mais le Yetzer Hara, à la fin de l'histoire, c'est le même pour tout le monde.
Ouais.
Alors, on va... là, on fait le cours d'hier. Tant pis pour ceux qui l'auront, on verra, t'as raison. Tu sais quoi, on va laisser faire HM. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire.
On va te bombarder de questions.
Ouais, va savoir.
On
va voir, ok. Alors, on recommence la Torah 113. Alors, il y a marqué comme ça, c'est sur un passouk du Perkei Avot qui dit « On fait payer l'homme qu'il en ait conscience et qu'il n'en ait pas conscience. » D'accord ? Donc là, c'est un Perkei Avot. Perkei Avot, c'est les maximes de nos pères, en français. Et ça concerne les fautes qu'on a pu commettre, d'accord ? Et que quand tu fais une faute, quelque part, j'aime pas le mot « payer » en français, mais il faut arranger l'affaire, d'accord ? Tu fais un truc tordu, t'as tordu quelque chose, c'est normal. Tu sais, une fleur, par exemple, des fois, tu la plantes mal, elle pousse comme ça, tordue. Tu dis « attends, non, il faut reparer ». Tu as fait la peine à quelqu'un, tu dois dire « écoute, je m'excuse ». Tu ne peux pas faire ce qu'il n'en j'ai rien fait. Donc, pareil dans tout dans la vie. Alors, il y a marqué comme ça. J'ai entendu ceci au nom du Baal Shem Tov. Avant chaque sentence décrétée en ce monde, que Dieu préserve, on rassemble toute la création à qui l'on demande si elle approuve cette sentence. Donc, chaque fois que dans le monde, d'accord, il va y avoir un décret, on rassemble la création, donc la création c'est nous aussi, d'accord, on s'inclut bien sûr. On rassemble la création et on lui dit, est-ce que tu es d'accord? D'accord jusque-là tout le monde?
Mm-hmm.
Bon. On ne le savait pas ça.
Mais comment, à qui on demande ça? Est-ce que tu es d'accord? À toute la création.
À toute la création. Tu vas voir. Chouïa.
C'est la création ou genre c'est genre aux anges?
La création, c'est toi, c'est les anges. La création, c'est le monde. Pour l'instant.
Pour décider d'une sentence, Hachem, il consulte qui?
On va voir. Alors, je vais t'expliquer une chose. Il concerte la création. Tu fais partie de la création d'Hachem. D'accord? Donc, il concerte. Attends, on va arriver, vous allez comprendre.
Ah, c'est Hachem qui concerte. Pardon, est-ce qu'il concerne aussi les Shabbat qui sont là ou les
questions? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, peut-être. J'ai envie de te dire pas trop. On va voir pourquoi, parce que je connais la suite. Donc te dis, c'est peut-être pas sûr. Mais peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas la réponse à tout. On rappelle encore une fois. On n'est pas dans un cours ici, d'accord? On est dans une Sirha Traverim, c'est une discussion entre copines. Donc, chacune, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, d'accord? Tout ce qu'on dira, c'est Emet, si Dieu veut, parce qu'on a Rabbi Nachman qui va nous guider. Donc, en tout cas, au nom du Baal Shem Tov, on a entendu comme ça que, avant chaque sentence décrétée dans ce monde, on rassemble la création et on demande si elle approuve, d'accord, cette sentence. C'est-à-dire que quelque part, en fait, la création, ça devient un juge, là, du coup. Ok?
Mais il n'y a pas marqué que Hachem demande. Tu dis « on demande ».
Avant chaque sentence décrétée en ce monde, que Dieu préserve, on rassemble toute la création à qui l'on demande, si elle approuve cette sentence. D'accord ?
C'est qui « on » ?
Qui c'est qui va décréter ? « on », c'est la création. On lui demande « est-ce que vous êtes toutes d'accord ?» Voilà, aujourd'hui, on a décidé. On va faire gagner 1 million d'euros à chaque personne. Vous êtes d'accord ? Vous faites partie de la création. Vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi pas? Bon, alors, ok.
Mais qui le demande? C'est pas la création qui le demande, puisque tu...
Hachem. Excuse-moi. D'accord. Hachem. D'accord? On continue. Or, Bokertov, même pour l'individu personnellement, sur qui une sentence est décrétée, que Dieu préserve, on lui demande si elle approuve cette sentence. Ça veut dire qu'en fait, là, j'arrête là pour t'imager le truc, ça veut dire maintenant, nous on va aller que dans le positif, d'accord, aujourd'hui. Mais ça peut être des fois des choses un peu plus truc. Mais on reste positif. Aujourd'hui, comment tu t'appelles ?
Valérie.
Alors aujourd'hui, on va dire à Valérie, écoute, ce soir, fin de semaine, tu rencontres ton Zivoug. C'est pas pour rien, je te le dis. Parce que tu vas voir. Le Zivoug, c'est son mari. Alors elle va dire, d'accord. Ok ? Maintenant, on va dire que pour les choses positives, on va toujours dire d'accord. Ok ?
Bezrat Hashem, je vais dire pas d'accord.
Bezrat Hashem. Maintenant, on va dire à une personne qu'on ne connaît pas, comme ça personne se sent visée. La personne, elle a blessé quelqu'un. Tu vas venir lui dire maintenant, écoute, tu sais que tu as blessé quelqu'un. Tu sais que c'est grave ce que tu as fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire ? Oui, mais tu comprends, c'est parce qu'elle a fait comme ça, et elle a fait comme ça. Bon, bien évidemment, tu vas commencer à faire ton propre avocat, on connaît, parce que c'est dur de reconnaître ses fautes. Très dur. D'accord ? Donc, on te dit ici, même pour l'individu personnellement, qui a une sentence, sur qui une sentence est décrétée, on va lui demander s'il approuve cette sentence. Maintenant, l'histoire, elle est quoi ? C'est sûr que toi, tu vas toujours être un bon avocat envers toi-même. Toujours, tu vas te trouver des circonstances atténuantes. C'est alors qu'est entérinée la sentence à Dieu ne plaise. Et donc, on te dit, donc, on va te demander à toi-même, est-ce que tu es d'accord, tu as fait une faute ? Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu penses ? On va te juger comme ça, on va te faire comme ça. D'accord ? Et toi, tu vas dire, oui, j'approuve. Maintenant, première question, bien sûr, tu vas dire, c'est sûr que si on me dit, tu risques la peine de mort, tu vas dire, mais pas du tout. Pas du tout, je n'accepte pas, c'est parce que j'avais des circonstances atténuantes. Alors, il te dit comme ça. Voici ce dont il s'agit. Évidemment, si on le questionnait lui-même, explicitement, sûrement que celui-ci objecterait en arguant que le jugement n'est pas conforme. Si, donc, comme on a dit, si maintenant une personne... D'accord ? Elle a fait quelque chose de pas bien. Et que toi, tu viens lui dire, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tout de suite, on va trouver, d'accord ? On va devenir le meilleur avocat qui existe sur Terre. Donc, c'est sûr que c'est pas bon. Parce qu'il va y avoir un manque de vérité, un manque de loyauté. C'est pas juste. Or, on a dit, vous vous rappelez le cours dernier, celle qui était là, on a un travail à faire, chacune de nous, c'est de chercher la vraie vérité. Tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem, tu ne peux pas faire une vraie tchouva si tu restes dans ton mensonge. Or, la vraie vérité, c'est très, très difficile à percevoir parce qu'encore une fois, on est né dans le mensonge, on a vécu dans le mensonge et on nous entretient dans le mensonge. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour arriver, d'accord, à la vérité. Mais quand même... Quand on va juger une personne, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit comme il faut. Donc c'est sûr que si on venait te questionner directement, tu dirais, mais ça ne va pas, pas du tout, j'ai des circonstances atténuantes. Par contre, si on le trompe en l'interrogeant sur un cas semblable, lorsqu'il tranchera le jugement sur l'autre, c'est alors que la sentence sur lui-même sera entérinée. Alors, il y a une histoire, ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que des fois, et pas des fois, c'est, regarde, on va réfléchir maintenant et on va voir toute notre vie, comment on passe notre vie, nous, nos journées. Celle-là, elle a fait comme ça, lui, il a fait comme ça, et c'est pas normal, et je comprends pas, et tu passes ton temps à juger l'autre. Nahon ? Tu passes ton temps à juger. Alors, tu vas me dire maintenant, pas du tout, moi, je suis une syndicaire, je juge pas. D'accord, allez, tu regardes pas les Facebook, tu regardes pas les réseaux sociaux, tu n'écoutes pas la radio, tu n'écoutes pas. Bon, c'est pas grave, ok, on enlève tout ça. Tu as un mari, tu as une copine, tu as des parents, tu as des frères, tu as des enfants, tu as on a tous quelqu'un autour de nous ?
Oui.
On passe notre temps à les juger. Il a fait comme ça, et pourquoi il a fait ça, et c'est pas normal, et c'est pas juste. Non, jamais tu juges personne?
Non, pas jamais, mais pas toute la journée non plus quand même.
Alors, j'ai envie de te dire...
J'espère avoir autre chose à faire que...
J'ai envie...
On analyse leur réaction, leur...
Appelle ça comme tu appelles. Appelle ça comme tu appelles.
Ça veut dire un jugement d'émotion, ça veut dire on est bien avec lui, pas bien avec
lui. Là, maintenant, tu es en train de vouloir me faire comme la première. Non, mais tu comprends, circonstances atténuantes. Viens, écoute une chose.
Pas atténuante, mais...
Écoute, c'est pas grave, viens, on va apprendre quelque chose de merveilleux, justement. Mais viens déjà, on voit la vraie vérité, c'est pas grave, on est... Attends, on se met pas la pression.
C'est impossible de ne pas le faire.
Je suis d'accord avec toi. Donc, on va pas se mettre de pression. Nous sommes des êtres humains. On peut pas maintenant se taire. C'est trop, parce que c'est pas possible. Hachem, il nous a donné la parole. On doit parler.
Mais on croit bien faire.
Tu crois bien faire, d'accord. Et... On va dire que, qu'est-ce qu'on va faire, Hachem ? Ce n'est pas de notre faute. Tu nous as donné un débit de parole à nous, les femmes. 9 mesures de parole contre une parole, une mesure pour les hommes.
Waouh ! Ça veut dire quoi, 9 mesures ?
Il y a 10 mesures de parole dans le monde. 9 pour la femme, une pour l'homme. Tu vois pas, quand tu parles avec ton mari, tu dégaines en 2 secondes et tu fais les questions et les réponses. Et lui, il n'a pas encore ouvert la bouche. Et toi, tu t'attrapes les nerfs. Réponds.
Il est calme,
tu vois. Et tu dis, mais attends, c'est pas possible. Il se fout de moi. Donc, c'est comme ça. Donc, surtout nous, les femmes, on est Baruch HaShem. Mais c'est comme ça qu'Hachem nous a créés. On va changer le truc. On va essayer de bien utiliser la parole. Donc, on a dit comme ça. Là, maintenant, il te dit, voilà. Par contre, si on te trompe, et on va t'interroger sur un cas semblable... D'accord ? Eh bien, quelque part, toi, ce que tu vas dire, ce sera donc la sentence.
Pour toi.
Pour toi-même. Alors maintenant, il te dit, nous en trouvons un exemple avec le roi David, Zichrono Levracha, lorsque le prophète Nathan, il est venu le trouver en lui racontant l'épisode de l'invité. Alors, c'est quoi cet épisode de l'invité ? Il y a Nathan, c'était un prophète. Il était venu voir donc David Améler, le roi. Et il lui dit comme ça. Il lui dit, je voudrais te raconter une histoire. Il lui dit, il y avait 2 hommes. Un qui était très riche. Il avait du bétail, il avait des plein tout. Il avait vraiment du menu bétail, du gros bétail, des maisons, des tout. Il était très riche, le type. Et il dit, il y en avait un autre. Son copain, son voisin d'à côté, le pauvre. Celui-là, il avait une brebis, Mesken. Une brebis. Et tellement la brebis, elle lui était chère, il lui donnait à manger lui-même, il lui donnait presque son verre d'eau, il la faisait dormir à la maison. Parce que tu te rends compte, la brebis, c'est tout son manger. C'est toute sa richesse, la brebis. Il ne peut pas dire... Donc, cette brebis, elle était devenue presque, il la faisait dormir à la maison avec ses enfants, presque comme sa fille. Elle faisait partie intégrante de la famille. D'accord. Il dit, un jour, le riche, il a reçu un invité. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le riche ? Il dit, je ne vais pas, moi, maintenant, pour l'inviter, servir, prendre une brebis à moi ou un mouton. Haram, quelque part. C'est un mouton en moi. Attends, je vais prendre la brebis du pauvre. Ah, je cote. Attends. Ne jugeons pas. Donc, il a dit, je vais prendre la brebis du pauvre, le mesquin, et je vais la servir à mon invité. Non seulement tu as volé la brebis, tu lui as enlevé le pain de la bouche, et en plus, tu t'es presque enorgueilli. Regarde, je te fais la table. Bon. Alors... Quand David Améler, il a entendu cette histoire, comme toi, comme nous toutes, c'est normal, t'entends une histoire pareille. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est rentré dans une grande colère et il a dit à Nathan, le prophète, « Par le Dieu vivant, il mérite la mort, l'auteur d'une telle action, et la brebis, il doit la payer 4 fois la valeur parce qu'il a commis cet acte et n'a pas eu de pitié.
Bon, » il a jugé.
Il a jugé. Il a jugé. Coucou, Betsabé. Ça va ? Tu voulais faire une entrée discrète ? On est content de te voir.
Merci, moi aussi, je suis très contente.
Baruch Hashem. Donc, le roi David, d'accord, il lui a dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai que ça nous choque ou pas? Nous toutes. Quoi? Quelqu'un, t'es blindé, t'en peux plus, tu sais plus quoi faire tellement t'as de l'argent. Tu vois ton voisin, le pauvre, il a peut-être un truc que tu as pas. Mais c'est pas grave, tu as tout, toi. Tu lui piques pour honorer tes invités et lui, tu le laisses comme ça crever, mais c'est grave, ça! C'est très grave, selon ce qu'on entend. Donc là, il te dit comme ça. Donc, il te dit, donc il a répondu par le Dieu vivant et la brebis et machin. Et il dit, c'est ainsi que la sentence fut décrétée sur David, selon ce qui est sorti de sa propre bouche. Pourquoi? Parce que Nathan, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, David, maintenant tu as décrété, toi, maintenant la sentence, ça y est. Mais je veux quand même que tu saches une chose. Alors voilà ce qui a marqué. Le riche, il représentait qui? David, Améler, qui étant le roi d'Israël, avait de nombreuses épouses. Vous connaissez l'histoire de David Améler et Bathsheba ou pas du tout? D'accord. Bon, je vous la fais en gros. David Améler, donc, il pouvait avoir plein de femmes. D'accord. Et il y avait Ouria, son général d'armée. Il avait une femme, elle s'appelait Bathsheba. David, il a vu Bathsheba. Par prophétie, d'accord, il a vu que de l'union de Bathsheba et de lui allait naître dans le futur Mashiach. Donc il a dit, il faut que je prenne Bathsheba comme femme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avant, quand on partait en guerre, l'homme était obligé de donner le guet à sa femme, d'accord, au cas où il est parti de ce monde, que Dieu préserve. Donc, il a dit, bon, Ouria, tu vas aller en guerre. Il fait le guet pour être sûr qu'il ne revienne pas dans le front. Comme ça, tu meurs le premier. D'accord? Et comme ça, tix, Bathsheba. D'accord? Donc.
Il a eu un enfant?
Attends. Il faut que tu lises les contes de Rabbi Nachman, toi. Tu vas adorer les contes de Rabbi Nachman. Je te vois, tu bois les histoires. Il faut que tu aies les contes. Vraiment, c'est très, très fort. Alors, donc, il dit comme ça. Donc, ça, c'était l'histoire. Donc, je vous la relis maintenant pour que ce soit bien. Le riche y représentait David Améler, qui était le roi d'Israël et qui avait de nombreuses épouses. Le pauvre, c'était qui? Il représentait Ouria, son général d'armée, d'accord, qui n'avait qu'une seule épouse qui s'appelait Bathsheba. Mais Ouria avait manqué de respect à David Améler. Ouria, donc il a fait quelque chose de grave, d'accord, il a manqué de respect devant David Améler. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait eu, mais il avait manqué de respect. Donc, il était coupable de mort, même si ce dernier aurait voulu lui pardonner selon la loi. D'accord, c'était comme ça. Il a manqué de respect au roi, d'accord? Selon la loi, même s'il lui avait dit pardon ou quoi, il était quand même, c'était décrété qu'il devait mourir. Donc David, il a envoyé au front, sachant que tous les soldats de l'époque, comme on a dit, ils donnaient le guet et qu'au front, de toute façon, tu ne reviens pas, d'accord? Alors il dit comme ça, mais pourquoi alors dans ces cas-là, si maintenant tu dis, bon, alors attends, dans cette histoire, on comprend quoi? Ouria, en réalité, il a manqué de respect à David Améler. Donc lui, maintenant, il était, d'accord, il devait mourir. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on est venu chez David Améler lui raconter l'histoire, d'accord, du pauvre et du riche, puisque de toutes les façons, c'était prévu que Bathsheba, elle allait devenir sa femme. Alors la Gemara, elle vient, elle te dit comme ça, pourquoi est-ce qu'il a été puni? Par précipitation. Et lorsqu'il décréta lui-même, sur lui-même la sentence, cela eut pour effet qu'il perde donc son premier fils qu'il a eu avec Bathsheba. Ça veut dire que Nathan, il est venu, il lui a dit, voilà l'histoire du riche et du pauvre. Ah, oh, mais c'est très grave, mais comment, machin? Ok, donc il mérite la mort et il mérite de payer, machin. Ok, d'accord, donc, sache une chose, Nathan. Si on était venu te voir, David, si on était venu te voir et te dire, mais David, je comprends pas. Tu as pris Bathsheba, C'est quand même... Tu aurais dit, circonstances atténuantes, tu comprends, souffle de prophétie, il va y avoir le Machiav. Ça, tu as voulu précipiter une situation. Donc, tu es coupable. Tu as voulu précipiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on te dit, on te raconte l'histoire et là, puisque toi, tu oublies que toi aussi, tu as fait des choses tordues dans ta vie et que tu veux faire maintenant le justicier, genre moi, je suis nickel, tu as donné une sentence. Eh bien, très bien. Entre guillemets, tu es tombé dans le panneau. C'est pour toi la sentence. C'est comme vous rappelez avec Mordechai et Aman, d'accord? Et le roi Achashverosh. Quand le roi Achashverosh, il a voulu... il a voulu donc donner une récompense à Mordechai et punir Aman, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses, Aman? Qu'est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a fait du bien au roi et tout? L'autre, il croyait maintenant qu'il parlait pour lui. Il dit, je vais lui donner un cheval blanc et ta-ta-ta et ta-ta-ta-ta. En réalité, il avait décrété une bonne sentence pour Mordechai. Donc, quand tu parles, il faut que tu fasses attention. Pourquoi? Parce que on te met dans une situation où on va te montrer... c'est un piège en réalité, d'accord? On va te faire oublier presque toi. Tu as fait exactement la même chose. Tu es riche. Tu as des maisons. Tu as des voitures. Tu as des bijoux. Tu as un mari. Tu as des enfants. Tu as tout ce que tu veux. À côté de toi, elle a une chose que tu n'as pas. Mais ce n'est pas grave! C'est pas grave, tu peux pas tout avoir dans la vie, ça n'existe pas. Toujours, le riche, tu lui dis, il est riche. Oui, mais il y a toujours au-dessus. Donc, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a pas. Et toi, tu dis, ah ouais, mais moi, j'aurais voulu ça. Des fois, ça peut être, c'est pas que du matériel, hein, des fois. Des fois, ça peut être, tu veux ressembler à quelqu'un, tu envies la personne ou tu... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui prendre. Mais, parce que prendre, c'est pas seulement prendre. Le fait que tu as envié quelqu'un, c'est déjà tu lui as pris quelque chose. Tu as mis un œil sur lui. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, ici, on te dit, d'accord, la sentence que David Améler, il a décrétée maintenant pour le riche. En réalité, il ne savait pas que c'était pour lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba, il est mort.
Celui qui devait être le Mashiach.
Non.
Non.
Et après le deuxième, Shlomo Améler qui a construit le Bet Amigdash, il est resté vivant. Parce que David Améler, et ben voilà, il a fait tchouva et machin et compagnie. D'accord, il a payé. Il a payé quelque part.
C'est pas là où il a écrit les psaumes.
David Améler, il a écrit les psaumes toute sa vie. Toute sa vie, David Améler, il a écrit les psaumes parce que toute sa vie, il a été mis de côté. Et il a souffert de ça parce que il était... Je ne me rappelle plus l'histoire avec la mère de David Améler et son père Ishaï. Ils s'étaient séparés, les deux. Je ne vais pas vous raconter des bêtises, mais ils s'étaient séparés parce qu'il y avait un décret. Total, la mère, elle est venue, d'accord, un soir. C'était nuit noire, donc il n'a pas vraiment vu que c'était sa femme. Et elle est tombée enceinte. Et lui, il a dit, comment? Elle est tombée enceinte alors qu'on s'était séparés. Et donc, tout le temps, David Améler, jusqu'à qu'on vienne dire... C'est le roi. Tout le temps, il était mis de côté. Genre, toi, tu es la brebis galeuse, tu fais pas partie de notre famille, machin. Donc, lui, toute sa vie, il a eu le cœur très contrit, David Améler. Donc, il a écrit. Et c'est quoi les Teilim? C'est l'Aïdbo des doutes de David Améler. Toute sa vie, il a fait l'Aïdbo des doutes, David Améler. Donc, tout ça, d'accord, c'est pour revenir sur la phrase. C'est ce dont il s'agit. On fait payer l'homme, qu'il en ait conscience. Autrement dit, on lui demande son opinion. Mais malgré tout, et qu'il n'en ait pas conscience, puisqu'il ne sait pas que le décret le concerne à lui-même. Ça veut dire que toute ta journée, toute notre vie, on nous met dans des situations où on va devoir parler et mettre un jugement, et mettre d'accord, ça veut dire, voilà, oui, à mettre un jugement, mais toi, tu ne sais pas qu'en fait, c'est sûrement pour toi. Tu es ton propre juge, en fin de compte. C'est pour ça que dans notre vie, d'accord, il y a un principe qu'on nous enseigne, toujours, vous vous rappelez, on avait fait cette Torah, la Torah de Hazamra, toujours regarder le point positif, toujours regarder les choses d'une manière, d'un bon œil, toujours juger favorablement l'autre. Parce que venir déchirer quelqu'un, c'est tellement facile. C'est tellement simple. Pourquoi ? Parce que tu vois une situation donnée. Mais tu sais, toi, sa vie, tu sais ce qu'il a passé, tu sais pourquoi Hachem l'a mis dans cette situation, tu sais comment ça va se passer, son chemin de tchouva, tu n'en sais rien. Des fois, une personne, elle est, oui, obligée de passer par un truc tordu, et toi, pitom, tu vois. Mais au lieu de te dire, Hachem, j'ai vu ça, je t'en prie, aide-moi, que Dieu m'en préserve, que jamais moi je fais ça, mais bémet que je comprends, et aide-la à faire tchouva, et trouve-lui du kafsrout, comme il faisait le Rabbi Levi Tzrak de Bertitchev. Rabbi Levi Tzrak de Bertitchev, une fois, il a eu un... C'était une époque où les gens ils commençaient un petit peu à s'assimiler. Alors, il y a eu un petit jeune homme qui avait appris, d'accord, à couper les cheveux. Et il était devenu coiffeur. Et pour se mettre coiffeur, eh ben, bien évidemment, il fallait être à la mode. Sinon, si tu arrives ringard, on va dire, bon, laisse tomber. Donc, il a coupé les péotes, la barbe, il s'est fait la petite mèche et il a commencé. Alors, Rabbi Levi Tzrak, qui le voit, il lui dit, écoute, tu veux pas relaisser pousser, tu veux pas, non, tu comprends, c'est pas possible, j'aurai pas de monde, je vais rater mon travail, c'est ma parnassa, on connaît. Pour la parnassa, qu'est-ce qu'on va pas faire? On est prêt à mentir, à voler, humilier, blessé, ce que je sais, t'es prête à tout pour la parnassa. Tu connais plus ni ton père, ni ta mère, tu connais plus personne. Parce que tu vas dire, j'ai pas le choix, c'est la parnassa, ce que je vais faire. Donc, Rabbi Levi Tzrak, il commençait à rentrer avec une discussion avec lui en lui disant, écoute, je te donne tant d'argent si tu acceptes d'arrêter ce métier, tout ça. Non. Et je te donne, parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passait? Il travaillait Shabbat. Je te donne tant d'argent? Non. Je t'en prie, regarde, je te paye encore. Maintenant, Rabbi Levi Tzrak, il n'avait pas beaucoup d'argent. Hein. Mais il était prêt pour éviter, d'accord, le chilul Shabbat. Il était prêt à donner tout, même ce qu'il n'avait pas. Et le gamin, non. T'imagines, tu tiens tête maintenant, je ne sais pas, moi, devant un grand sadique. Tu trembles normalement. Eh ben non, le gosse, il dit non. OK. À un moment donné, qu'est-ce qu'il se dit, Rabbi Levi Tzrak ? Il dit, bon, tu sais qu'est-ce qu'on va faire ? Je te donne la moitié de mon lamaba. De mon lamaba. Le gosse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, d'accord ! Et là, Rabbi Levi Tzrak, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, regarde comme ils sont beaux, tes enfants, pour tout l'or du monde ! Il n'était pas prêt à arrêter de profaner Shabbat. Mais pour une place dans l'Olam Haba, que il ne sait même pas ce que c'est l'Olam Haba, lui. Si ça se trouve, il va dire ça n'existe pas, est-ce que je m'en fous ? Eh bien, il a été prêt à dire, d'accord, j'arrête.
Oui, mais Rabbi Levi Tzrak, il a peut-être menti. Est-ce qu'on peut le dire, je te donne l'Olam Haba ?
C'est Rabbi Levi Tzrak, hein. c'est pas toi et moi.
Hein.
Mais toi, c'était un homme. Hein.
C'est un très, très grand tzaddik, Rabbi Levi Tzrak. Oui, tu sais comment on l'appelle ? Tu sais
quelque chose à la place du bon Dieu ?
Parce que le tzaddik, quand il dit une parole, Hachem, il accomplit. Tu sais qui c'était, Rabbi Levi Tzrak de Bertitchev ? On l'appelle le Sanégor Israël. C'était le défenseur d'Israël. Et Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit sur Rabbi Levi Tzrak ? Il a dit c'était les tfilines. C'était les tfilines du Ham Israël. Quand Rabbi Levi Tzrak il est parti de ce monde, ça a été une perte incommensurable pour le Ham Israël. On ne peut pas imaginer le tzaddik que c'était. Les gens, ils allaient le voir, toujours y trouver des circonstances atténuantes, toujours y juger bien. C'était le défenseur d'Israël. Donc un grand tzaddik comme ça, quand lui il décrète quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il dit d'accord. Puisque toi, regarde, toi-même, moi-même, que nous on n'est rien, on vient nous concerter pour des sentences. Et on nous trouble, d'accord, dans la situation pour qu'on ne voit pas qu'en réalité c'est pour nous. Et nous, quand on émet une sentence, et ben on dit ok, nous qu'on n'est rien. Alors tu imagines un tzaddik? Et un tzaddik en plus qui vient défendre un enfant d'Israël, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il a en horreur, c'est quand tu viens lui parler du mal d'un de ses enfants. Même tu dis, il ne fait pas Shabbat, mange pas kasher. Hachem, il ne peut pas supporter parce que Hachem, il a la miséricorde et la justice. Il est obligé de faire régner les deux. Mais il y a marqué, Hachem, il préfère le Ham Israël que la justice. Il préfère Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, que sa propre loi qu'il a mis en place. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, du matin au soir, il est en train de tourner, de détourner, d'organiser, de faire pour donner au Ham Israël.
Hachem, il lui a enlevé la moitié de son Olamama que... à Rabbi Israël.
Oui, mais c'est pas grave. Mais on ne sait pas, c'est une image, si ça se trouve. D'accord, à Kadosh Baruch Hu. Il a laissé et il a dit, je lui donne à celui-là aussi parce qu'il a été prêt à faire un grand Messirut Nefesh. Tu comprends? Alors, il dit comme ça. Il dit, donc, on voit quoi? Qu'en fait, on fait payer à l'homme, d'accord? Qu'il ait conscience ou pas, ça veut dire on va te mettre dans une situation. D'accord? Et dans cette situation, eh ben, selon ce que tu diras, eh ben, c'est ce qui se passera. Seulement, fais attention parce que souvent, tu es ton propre juge. Regarde David Ameller dans cette histoire. On lui a raconté une histoire que, en vrai, David Ameller, qui était riche et qui était un Baal Chesed incroyable, est-ce qu'il aurait été prendre la brebis de quelqu'un? Ça ne lui serait même pas venu à l'idée. Mais prendre la femme de ton général d'armée, oui. Tu as compris? Ça veut dire, dans cette histoire, ne vous dites pas, moi, je ne vais jamais faire ça. Attends, ça ne me concerne pas. Tu fais ça toute la journée, tu ne t'en rends même pas compte. Toute la journée, on fait ça. Le simple fait que tu regardes ta copine et que tu vois qu'elle a un truc que t'as pas et que ça t'énerve, ça y est. Bah oui, c'est humain. Parce que, qu'est-ce qui a marqué? Mi wa ashir, mi chez sa mère, mi chelko. Celui qui est l'homme riche, celui qui est heureux, qui est rassasié, qui est content de son sort. Tu crois que Stam, ils te l'ont marqué comme ça, les chachamim, cette phrase, parce qu'ils voulaient faire une belle phrase qui faisait très bien et très classe? Pas du tout. Parce que Bémed réfléchit bien. Qui est heureux de son sort? On n'est toujours pas content. T'es pas content du mari que t'as eu. T'es pas content des gosses que t'as eu. T'es pas content du travail que t'as eu. T'es pas contente que t'as pas eu ça. T'es jamais contente. Il y a toujours un truc qui va pas. Il fait beau, tu voulais qu'il fasse froid. Il fait froid, tu voulais qu'il fasse beau. L'autre, il veut la pluie. L'autre, il veut la neige.
Ouais, t'es tout le temps négatif.
T'es tout le temps en train de dire, il y a un truc qui va pas. Tout le temps. Tu as les cheveux bouclés, tu veux les cheveux raides. L'autre, elle veut les cheveux raides. Ah, moi, je voulais les cheveux bouclés. Tout le temps. L'autre, elle est mince, elle est plus mince que moi. L'autre, elle est grosse, non, moi, je suis plus grosse. Tout le temps. C'est comme ça.
Mais enfin, c'est une drôle de façon de voir.
C'est une réalité. Écoute, on l'a dit, tu n'étais pas la semaine dernière. Pour faire tchouva, il faut qu'on soit capable de voir notre réalité. Parce que si on ne le sait pas, comment on va faire tchouva? Si on ne le sait pas, comment maintenant on va faire pour juger l'autre du bon côté? D'une manière intéressée à partir de maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on le faisait style... oui, on nous a dit qu'il fallait juger du bon côté et tout. Maintenant, tu vas dire, pas on m'a dit, mais j'ai intérêt à le faire parce que si ça se trouve, je suis en train de parler pour moi-même. Je ne vais pas faire la folle. Donc, c'est une réalité. Encore une fois, ne crois pas que ce que les chachamim ils ont marqué, ne crois pas que c'est pour faire du style, pour faire un beau livre. Non, ce qui a ici marqué, c'est la Torah Temet, ça veut dire c'est une Torah vivante, c'est ce que nous représentons. Seulement, on n'en est pas conscient.
D'ailleurs, Rabbi Shapton dit, comment tu juges autrui, tu te juges toi-même.
Nachon, Nachon, toujours, si tu juges mal l'autre, d'accord? C'est-à-dire, non, il te dit, ce que tu as vu chez l'autre en mal, c'est ce que tu l'as en toi en 0,05. Et en bien aussi, hein, d'ailleurs. Soyons positifs.
C'est ce qu'on dit pour les enfants. On dit toujours qu'on ne se voit pas chez les enfants.
Oui, par exemple.
C'est nos défauts qu'on voit décuplés.
Une maman, par exemple, voilà, qui est avec son enfant, elle a les nerfs, elle dit, ah, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Bon, ok. Mais si maintenant, tu es capable de voir ta vraie vérité, ce qui t'énerve chez ton enfant, c'est ce que tu as chez toi. Va chercher. Hein? Sur ton mari aussi. Ce qui t'énerve chez ton mari, va le chercher chez toi. Et je peux vous dire, vous savez que j'en écoute toute la journée des histoires de couple, d'accord? Combien de fois, hier soir, j'avais un couple, 3 heures dans le bureau, et des cris, les machins. Mon mari ce matin, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je ne pouvais même pas dormir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai cru qu'il allait avoir des coups. Je dis, non, il n'y a pas des coups, il n'y a que des cris, t'inquiète pas. À un moment, je me dis, si, frappe, qu'est-ce que je fais? Alors, elle dit un mot, lui dit truc, bon, il s'énerve, et il crie, et machin, elle est comme ça, il est comme ça, je vous passe les insultes, je vous passe, ça veut dire, bon. À la fin, je leur ai dit, bon, mais est-ce que vous êtes conscient? Ce que tu lui reproches à elle, c'est ce qu'elle te reproche à toi. Seulement, c'est dit dans des mots différents. C'est dans des situations différentes. Mais les deux, vous ne voyez pas que c'est pareil? Non, il est comme ça, il est comme... Je dis, mais toi aussi, il a dit la même chose avec des mots différents. Toi, tu l'as dit avec ton langage de femme. Et lui, il a dit dans son langage d'homme. Le problème, c'est que comme on ne sait pas comprendre les... On ne veut pas apprendre la langue de l'un et de l'autre, d'accord ? Alors, automatiquement, ça crée des tensions et des incompréhensions. Par exemple, un mari dit à sa femme, dans son cas, elle l'a dit hier soir, son mari, il a voulu sortir un anniversaire. Elle lui dit, « Ah, tu vas aller à l'anniversaire ? Bon, d'accord, alors vas-y, mais reviens tôt. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire ? Chérie, j'ai envie de rester avec toi, moi, en réalité. Donc, ok, vas-y, mais moi, j'aurais bien voulu rester. Je voulais passer la soirée avec toi, quelque part. Rentre tôt, mamie, comme ça, on peut être un petit peu ensemble. Tu vois ? Lui, « Waouh ! Tu vas me dire à moi ce que je dois faire ?» Yahmar, tu vois pas que ta femme, elle t'aime. Si en réalité, elle s'en foutait de toi, va chérie, rentre même à 5h du matin. Moi, je vais rester toute ma nuit avec WhatsApp, Facebook et je vais m'éclater. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Comprennent pas. Parce que la femme, quand elle parle, c'est avec des rémazimes, c'est des allusions. Et l'homme, il comprend pas les allusions. Il lui faut...
Cartésien.
Direct, tachlès, blanc, noir. Je lui ai dit, mais...
Alors, ils n'ont pas dit la même chose.
C'est la même chose. Les deux, ils se plaignent des mêmes choses, en gros. Sauf que lui, il parle d'une certaine manière et l'autre, d'une autre manière, comme c'est marqué. La femme, d'accord, quand elle veut aller avec son mari, elle ne peut pas lui dire direct, je veux aller avec toi.
C'est plus ça.
La femme, elle doit faire par des rémazimes. D'accord. Des rémazimes, c'est des allusions. Qu'est-ce que c'est des allusions?
Des images.
Des... Non, pas du tout. Quelles images? Tu vas lui faire, tu vas te coller un peu à lui, tu vas t'habiller un peu sympathique, tu te mets du parfum, tu viens dans ses bras, tu l'embrasses, tu fais ce qu'il faut pour que ton mari comprenne. Tu lui dis pas, j'en peux plus, je vais aller avec toi. Tu fais des petits trucs. D'accord? Pourquoi? Parce que la femme, elle peut pas dire c'est péché. C'est vraiment péché. Alors que le mari, lui, il n'a pas de problème. Donc, une femme, on voit bien que toute la femme... D'accord ? Quand elle parle, c'est beaucoup avec des allusions. Elle passe par des petits chemins, des petits machins. Elle a du mal, des fois, à dire les choses.
C'est pas cache.
Et le mari, il comprend que le cache. Il n'y a pas... Tiens, c'est marrant, ça. La femme, c'est la carte de crédit. C'est détourné. Il l'enverra à la fin et lui, il veut pas. C'est vrai, la femme, elle adore la carte de crédit. Ça passe inaperçu au début.
À la fin,
c'est que tu payes cash. Donc, on voit que Bémet, chaque parole que tu vas sortir, c'est-à-dire toujours dis-toi, d'abord, j'aurais pu être à la place de l'autre. Donc, je ne vais pas mal juger. Et puisque j'aurais été à la place de l'autre, ben viens, j'essaye de trouver des circonstances atténuantes parce que, est-ce que quelqu'un, il peut avoir une garantie que lui va jamais faire telle ou telle chose ? Non. Tu ne sais pas ce qu'Hachem, il te prévoit dans ta vie. Tu ne sais pas les réactions, tu ne connais pas. Donc, on doit faire, maintenant qu'on prend conscience de cette histoire, on doit faire très, très, très attention, d'accord, de la manière dont on va juger une personne et quand on émet certaines paroles. Parce que quand tu parles, en réalité, tu ne te rends pas compte. C'est comme on a dit au début, on rassemble la création et on lui demande si elle approuve cette sentence. On va te mettre dans une situation qui ne ressemble pas du tout à ce que toi tu vis. On te trompe, on te brouille l'esprit, on te brouille les yeux. Et on va te raconter et on va te dire, qu'est-ce que tu en penses ? Et toi, qui veux être la justicière, d'accord, toujours, toi t'es super, toi, vran ! Vas-y, tu lances la sentence. Et on dit, ok, tu as lancé la sentence. Et après, tu te retrouves, que Dieu préserve, des problèmes, des histoires, des galères, des machins. Tu dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Toi, tu as dit. C'est toi-même qui as dit la chose. Personne, on est venu, on t'a posé une question. Bien évidemment, on n'allait pas te dire clair et net. Sinon, où elle est l'épreuve, où il est le travail? On l'a fait avec un, d'accord, des manières détournées. C'était à toi de savoir rester une bonne juive. Et de te rappeler que dans la vie, d'accord, il y a un principe de base, tu dois toujours juger les kashrout. C'est quoi les juger les kashrout, Karel? Juger avec un bon œil? Non, c'est un bon œil, kashrout, avec miséricorde peut-être?
Miséricorde.
Ouais. Tu dois toujours, d'accord, juger avec miséricorde et trouver circonstances atténuantes. Parce qu'il y a un Dayan dans le monde, un seul, c'est Hachem. C'est pas toi, c'est pas moi, on ne sait pas. Parce que, comme on avait dit il y a longtemps, c'est quoi la vie? C'est quoi l'histoire du monde? C'est un grand feuilleton. Dans le feuilleton, il y a les épisodes. Toi, tu étais épisode 2, l'autre épisode 5, l'autre épisode 1000. C'est sûr que celle qui arrive au 1000, elle va dire « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi !» Ben oui, tu n'étais pas là, toi, au 2. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ne viens pas maintenant, comment dire, « Je ne comprends pas et ce n'est pas normal. » Il y a un metteur en scène. Il a écrit son truc, son histoire. Elle est bouclée, elle est ficelée, il sait, tout est bien. Mais toi, à chaque fois, toi, moi, on arrive dans des endroits de l'épisode qui sont différents. C'est sûr que tu ne peux pas tout comprendre. Tu n'étais pas là au début. C'est ça la vie. C'est une grande scène et c'est un grand film et c'est comme ça. Donc, au lieu, toi, de venir, d'accord, dire « je suis la justicière et moi, je vais être le juge », reste à ta place. Essaye d'être l'avocat. Trouve des circonstances atténuantes, comme tu l'aurais fait pour toi-même. Parce que toi-même, tu passes ton temps à te trouver des circonstances atténuantes. Regarde-toi quand tu es en problème de Shalom Bayit avec ton mari. Tout le temps, tu vas dire, oui, mais c'est parce qu'il y a eu ça, et c'est parce que ça, et tu te trouves des circonstances atténuantes, mais même des fois des choses terribles. Que tu as envie de dire, mais écoute, tu crois pas que tu exagères un peu? Tu te trouveras toujours des circonstances atténuantes. Pourquoi tu ne fais pas pour l'autre? Pourquoi tu n'as pas l'amour de ton prochain? Pourquoi tu veux déchirer et casser l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu fais pour toi, fais pour l'autre. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Va'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu vas maintenant consciemment décréter un mauvais jugement sur toi-même ou un mauvais décret? Tu vas dire, je mérite ça, je... Non. Eh bien, pourquoi pas sur l'autre? Donc, qu'est-ce qui a marqué? Il te dit ici, ce sujet, il est très profond. À savoir, de quelle façon interroge-t-on tout homme? Ça veut dire que c'est une histoire en réalité qui existe depuis la nuit des temps. Et si tu veux bien regarder, d'accord, depuis le début... On a toujours un problème de jugement. Depuis le début de la création, il y a toujours un problème de jugement. Et à Kadosh Baruch Hu, d'accord, puisque l'histoire, en réalité, c'est un éternel recommencement, c'est juste un changement de personnage, de situation, de décor, mais on est toujours Adam, on est toujours Chava, on est toujours pareil. C'est juste que on n'arrive pas à dépasser ce truc. On n'arrive pas. Et il te dit en effet, en toutes les paroles et histoires qu'un homme entend, il y décèlera des choses très hautes et très élevées. Si seulement tu prenais le temps de tendre un petit peu l'oreille, d'ouvrir un petit peu tes yeux, à travers ce qu'on te fait vivre, hein, c'est pas la peine d'aller dans une synagogue ou quoi. Ta vie, comment Hachem il te fait vivre ta vie à toi. Chacune elle a sa vie. Écoute Hachem, il te parle. Ouvre tes yeux, il est là, Kadosh Baruch Hu. Il est en train de t'envoyer plein de messages. Mais toi, non, tu es occupé à juger maintenant. Tu es occupé à déchirer quelqu'un. On devra donc y faire très attention afin de ne pas décréter de jugement avant d'avoir soupesé à plusieurs reprises. Car il y a un danger pour sa vie. Quand tu juges, en réalité, sache, tu es en danger. Tu es en danger de mort. Regarde David. Il a décrété sur lui-même la mort. Donc il faut faire très très attention. C'est-à-dire que quand par exemple, encore une fois, je prends ces exemples parce que c'est souvent dans notre vie de notre vie, ça veut dire quotidienne, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos enfants. Quand tu te juges, et même des fois toi-même, quand tu es toute seule, d'accord, t'as une manière comme ça aussi des fois de... Toute seule, pas devant les yeux des gens, tu peux te dire, ouais, je suis bidon et je vaux rien, et de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde tout ce que je fais, c'est pourri. Pourquoi tu décrètes des mauvaises choses? Regarde tout ce que tu fais bien, regarde Baruch HaShem, tout comment tu te rapproches d'HaShem, regarde le bien. Ne regarde pas le mauvais, c'est pas, laisse tomber, on s'en fout, c'est pas grave. Et il te dit comme ça, il te dit, et donc tout ça c'est très ancien, il faut faire attention, pourquoi? Parce que il y a, dans chaque parole qu'un juif il va dire, il y a des implications, parce que la parole d'un juif, on a dit, elle est très forte. Un juif, normalement, d'accord, si on n'était pas un petit peu tordu, on est fait pour bénir. On a un koar dibour, on a une force dans notre parole, qu'en réalité, n'importe qui pourrait bénir. Plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus tu peux bénir. C'est quoi se rapprocher d'Hachem? Se rapprocher d'Hachem, c'est être capable de le voir dans chaque situation. Se rapprocher d'Hachem, c'est pas juste, tu dis, je fais Shabbat, la cacheroute et tout ça, et voilà, je suis proche d'Hachem. Non, parce que tu peux faire le Shabbat, la cacheroute, et débiter un nombre, un lachonara pas possible, avoir un mauvais œil sur le prochain, un mauvais décret. T'as pas vu Hachem dans tout ça? Des fois, les gens, ils vont courir demander des brachot, des machins, des trucs. Demande-le à toi-même. Rapproche-toi d'Hachem. Ne fais pas du lachanara. Ne juge pas mal ton prochain. Ne casse pas l'autre. C'est comme ça que tu te rapproches d'Hachem. Parce que, hein?
C'est la sainteté.
Bien sûr, c'est comme ça que tu te purifies. C'est comme ça que tu te... Elle dit, c'est la sainteté. Tu te sanctifies quand tu fais ça. Parce que...
C'est dur.
C'est très dur. Mais tu sais que être juive, c'est... C'est pour ça qu'on est le peuple élu. C'est trier sur le volet. Pas tout le monde peut. Mais si tu es juive, c'est que tu peux. Donc ne te laisse pas embrouiller maintenant par le Yétera qui va dire « Oh, mais c'est trop dur, c'est machin. » Rien n'est dur. C'est juste maintenant que tu vas aller, tu vas dire à Hachem, tu vas dire à Hachem, « Je savais pas moi tout ça. » J'étais pas du tout consciente.
Il faut écrire au début.
Non, tu peux, t'es pas obligé d'écrire. T'es pas obligé d'écrire. Mais tu peux aller chez Hachem, lui dire, Hachem, je savais pas tout ça, je t'en supplie. Aide-moi à garder ma bouche, aide-moi à voir les choses d'une manière positive et d'une manière avec beaucoup de rachmanout. J'aimerais apprendre de toi, Hachem. J'aimerais apprendre de toi, parce qu'Akadosh Baruch Hu, du matin au soir, comment il nous regarde? Avec des yeux d'un papa, avec de la rachmanout. Avec une miséricorde sans fin. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que si Hachem, justement, il faisait comme nous, si nous, on était les maîtres du monde, mais le monde, il est vide, c'est fini. Une terre vide. Parce que tout le monde est passible de mort. Celle-là, elle t'a énervé, celle-là, elle t'a fait ça, celle-là, elle t'a fait ça, vas-y, toi, je te coupe la tête, toi, je te fais, toi. Tout le monde meurt. Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré notre éloignement, malgré que des fois on lui met un couteau dans le dos, malgré que des fois on parle mal de lui, tout. Et bien Hachem dit, non mais ça c'est mes enfants, attends. Circonstance atténuante, circonstance atténuante, parce que celle-là elle est comme ça, et celle-là est comme ça, et celui-là est comme ça. Circonstance atténuante. Et le monde, il a été créé pour le shalom.
Ah, pourquoi on n'a pas poussé une place au Olam Haba si circonstance atténuante?
D'où tu sais que tu n'as pas une place au Olam Haba? Qui c'est qui t'a
tout
dit?
Tout le monde ne pourra pas.
Bezrat Hashem, écoute, chaque juif, il a sa place. Ce que tu ne sais pas, peut-être on ne te l'a pas dit, c'est que d'abord, qui qu'on soit, on va tous passer par le Gehinnom. Obligé. L'enfer. D'accord? Mais on avait fait cette Torah déjà il y a quelques temps, on pourra la refaire si un jour vous voulez. Il avait dit que l'enfer, c'était ici.
C'était quoi?
Ici. Moi aussi j'y crois. Pourquoi? Parce que en réalité tu fais ton Olam Haba et tu fais ton enfer. Tout dépend ta relation avec Hachem. Si tu vois Hachem dans tout ce que tu vas vivre, même dans tes galères soi-disant, tu vis dans l'Olam Haba. Parce que tu sais qu'en réalité il n'y a rien de mal. tout c'est que du bien, tout c'est pour te faire avancer, pour te... Parce qu'Hachem, il dit, bon voilà, Valérie, elle est née, point A, mais je veux la faire arriver, point V. Bon. Ben, il y a un chemin pour Valérie. C'est tracé, c'est pas le chemin de Karen, c'est pas le chemin de... C'est le chemin de Valérie. Alors, sur ce chemin, il va y avoir toutes sortes de choses. Elle a deux solutions. Soit elle va pleurer toute sa vie, parce que toute sa vie, elle va dire « Ah, oh, il m'est arrivé ça, et j'ai eu ça, et j'ai eu ça, ta-ta-ta-ta. » Donc, elle va vivre en enfer. Elle s'est créée son propre enfer. Soit elle va voir Hachem partout. Dire « Ça, c'est Mina Shamaim. Je sais que c'est pour mon bien. Et ça, je sais que c'est Hachem qui veut comme ça. Et je sais que tout ça, c'est parce qu'à la fin, je vais faire tchouva. Une vraie tchouva. La tchouva du cœur. Je vais nettoyer mon cœur, justement, de cette pierre-là, d'abord, de ce tartre que j'ai. Je vais nettoyer mon cœur de tous ces jugements rigoureux, de toute cette méchanceté, de toute cette... Je vais nettoyer mon cœur. Donc, je comprends que pour nettoyer un cœur, c'est pas... Il y a du chemin, bien sûr. On termine. Donc, il dit comme ça, c'est ce dont il s'agit donc dans la Gemara Brachot, ces souffrances. Il y a marqué comme ça, ces souffrances te sont-elles agréables ? Il y a une fois, Rabbi Yochanan qui a rendu visite à Rabbi Chiya qui était très malade. Alors, il lui dit... Est-ce que ces souffrances, elles te sont agréables ? Il lui répondit, ni elles, d'accord, ni elles, ni leur récompense. Ça veut dire que tu ne cherches pas non plus la souffrance. Et je ne cherche pas non plus les récompenses qu'il va y avoir après la souffrance. Ça veut dire, c'est comment Hachem, il me fait vivre les choses ? D'accord. Si c'est décrété comme ça, c'est décrété comme ça. Des fois, tu es dans une situation, tu es dans un problème difficile. Tu as un obstacle, tu as une épreuve et tu n'arrives pas à sortir. Là, on parle de maladie, d'accord ? Il était malade. Alors, Rabbi Yochanan, il lui dit, « Donne-moi ta main. » Il lui donna la main et le releva. En d'autres termes, si toi, tu ne les désires pas, donne-moi ta main afin de confirmer que tu ne les désires pas véritablement. C'est pourquoi, dès qu'il donna la main, il se releva. Ça veut dire quoi, il se releva ? Ça veut dire... Autant on demande à l'individu de décréter une sentence sur lui-même de manière détournée, autant on lui demande aussi de décréter sur lui-même de casser le jugement. En l'occurrence, dans cet exemple, pour la guérison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, d'accord, des fois, tu es dans une situation difficile. L'aléno, une maladie, tu as une épreuve et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, n'aie pas peur d'aller en parler avec ton prochain. Ce n'est pas honteux. Comme on a dit, tes problèmes, mes problèmes, c'est nous toutes pareil. Ce qu'on a parlé maintenant, ça nous a parlé à nous toutes, parce qu'on est toutes dans la même histoire. Bon. Tu parles avec ton prochain. Ton prochain, il va te sortir de là où tu es. Pourquoi ? Parce que lui, maintenant, comme il lui a dit Rabbi Yochanan, il lui a dit, tu acceptes, c'est-à-dire comment elles te sont bonnes, les souffrances que tu as et tout. Ni ça, ni ça. Donc, tu veux te sortir de cette maladie, donne-moi la main. Parce qu'il y a marqué que quand quelqu'un il est tout en bas, donne-lui la main. Tends-lui la main pour qu'il puisse se relever. Donne-moi la main. Il lui a pris la main et il l'a relevé. Parce qu'en réalité, tous les problèmes, tous les soucis, tous les machins qu'on a, d'accord ? Si toi, comme on a dit ici, tu décides de la même manière qu'on t'a convoqué, d'accord, pour la sentence rigoureuse, mais tu peux aussi casser le jugement. Il suffit juste que tu viennes et que tu dis « Je veux casser, je veux sortir de ça, je veux sortir de cette impasse, je veux sortir de ce problème. » C'est toi qui fais en réalité. Ça veut dire, puisque nous, on a une partie divine en nous, on a tous une partie divine. Quelque part, on est tous des mini-dieux. Et oui. Donc, automatiquement, on a une force pour juger. Et on a dit « Malasot, c'est ça la vie ». On a ce Yetzer Hara de vouloir toujours croire que c'est nous qui jugeons et c'est nous qui font. Donc, si maintenant tu es consciente de ça, sache que tu peux casser toutes les sentences dans tous les domaines. À toi maintenant de recréer l'histoire. À toi maintenant de prendre la chose, la même histoire, et tu vas maintenant la regarder différemment. Tu vas juger avec la miséricorde. Tu vas décréter des bonnes choses. Et l'histoire, elle va se mettre, et donc tu casses le jugement. Si chacun, il arrive, d'accord, ne serait-ce que dans son foyer, autour des gens, avec les gens qu'on a autour de nous, de dire, bon, tu sais quoi, je vais essayer de faire tchouva. le mari, les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les copines, les machins. Tu casses le jugement, tu casses même sur toi-même. Même sur toi-même. Quand tu fais ça, eh ben, automatiquement, tu réécris un petit peu ton histoire. Et c'est pour ça que maintenant, on comprend mieux, d'accord, ce qu'il avait dit donc, le Baal Shem Tov. Avant chaque sentence décrétée dans ce monde, Kras Veshalom, on rassemble toute la création à qui l'on demande si elle approuve cette sentence. Donc oui, tu représentes la création. Tu représentes à toi toute seule une création. Donc à chaque instant, on va te convoquer et on va te demander. Et bien toi maintenant de savoir comment parler. Et même si, parce qu'on connaît le Yetzirah qui va dire oui, mais c'est intéressé maintenant.
Et comment penser aussi, parce que
comment penser, bien sûr, parce que tu dis ce que tu penses. Donc ça commence dans la pensée. Donc tu vas travailler ta pensée. Ça veut dire personne ne sait maintenant que tu es en train de faire tchouva. Tu es toute seule dans la rue, dans une synagogue, il s'est passé quelque chose. Au lieu de dire, ah, t'as vu, elle a fait ça, elle m'a fait ça. Elle avait sûrement des bonnes raisons. C'est sûr qu'elle n'a pas pu. C'est sûr qu'il n'y a pas eu quelque chose. C'est sûr qu'il me manque un élément. C'est pas grave. Tu penses comme ça, automatiquement, tes paroles aussi, elles vont être plus douces, plus agréables. Des fois, on juge mal une personne qui nous est chère. Ben, tu te dis, non, pourquoi je vais juger mal? Sûrement qu'il me manque des éléments. Et si tu réfléchis bien, bien sûr qu'il te manque des éléments. Tu n'es pas omniprésent, tu n'es pas tout le temps dans l'autre. Tu ne sais pas ce que l'autre y réfléchit. Tu ne sais pas ce qu'il a ressenti aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'il a passé. Comme nous, personne ne sait comment on est.
L'égoïsme,
c'est-à-dire
que tu peux être devant toi des gens qui sont totalement égoïstes et tu peux pas.
Peut-être les pauvres toute leur vie ils ont manqué.
Ah, voilà. C'est ça.
Peut-être que toute leur vie ils ont manqué. Tu sais, t'as des gens, ils ont pas eu. Et un jour ils se retrouvent, ils veulent vite. Et toi tu dis mais attends, toi t'as eu toute ta vie. Tu vas dire mais c'est quoi ça? Mais elle n'a pas eu toute sa vie, la pauvre. Laisse-la se rassasier un petit peu. Laisse-la prendre un petit peu, tu vois. Elle va se calmer. C'est comme quelqu'un qui a très soif. Au début, il va boire. Tu vas dire, oh, dis donc, comment il boit? Il n'a aucune élégance, c'est quoi ça? Il crève de soif, le mec. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas bu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir, toi, comment tu aurais été?
Il y a aussi que... il y a ce cas de figure, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que, en fait, je veux dire, l'égoïsme, on est né avec ça.
Enfin, bien sûr, c'est un trait de l'être humain.
D'être dans l'ego tout le temps, dans chaque chose, on ramène les choses à nous-mêmes, on a un intérêt, tu vois, même s'il n'est pas, il est plus ou moins visible chez certaines personnes, mais il est toujours là, cet ego, tu...
Bien sûr. Ben, regarde là, par exemple, là, d'accord? Là, maintenant, c'est par pur égoïsme qu'on va se dire, bon, je vais faire attention, tout très bien, tout super, ce soir, vous allez toutes être des femmes exceptionnelles. Chérie, tout va bien, les enfants, tout va bien, ma mère, mon père, tout le monde va bien. C'est pas par égoïsme, parce que tu te dis, bah écoute, j'ai pas envie de m'attirer des galères, on sait jamais, vas-y, tu sais quoi, qu'est-ce que je m'en fiche. Mais c'est pas grave, parce que mitor lolishma, yavolishma, c'est comme quand on a reçu, d'accord, la Torah, et qu'Hachem, il nous a dit, bon, vous voulez la Torah ou pas? On a dit, bah on n'est pas très intéressés. C'est vrai, on n'était pas intéressés. Ça nous saoulait, toutes ces mitzvot, tous ces machins, ne fais pas. Tu dis, bah, écoute, la nature humaine, c'est fait. Alors, mais Hachem, il avait écrit son histoire. On était son peuple élu déjà. Donc, il a pris la montagne, il a dit, c'est où vous dites d'accord, ou je la mets sur votre tête. Il n'a pas fait ça avec les autres peuples. Eh bien, nous, on n'a pas eu le choix, en vrai. Bon, bah ok, alors on n'a pas envie de mourir. Mais, après, donc au début, c'était pas... C'était intéressé parce qu'on avait peur. Et bien aujourd'hui, justement, on réapprend. On apprend à aimer Hachem, on apprend à aimer sa Torah. Aujourd'hui, c'est différent. Mais dans chaque situation, voilà, aujourd'hui, oui, c'est pas grave, c'est vrai. Au début, ça va être un petit peu par intérêt, mais jusqu'à que ça va devenir quelque chose qui va faire partie intégrante de nous-mêmes.
Oui, mais aussi, ne pas juger, c'est pas seulement tu vas le faire que parce que tu as peur de t'attirer des trucs par intérêt, comme tu dis. C'est aussi parce qu'on doit.
Son DHM,
dans le
mais c'est vrai ce que tu dis, Agnès, c'est très vrai. Mais combien on pense à HM dans la journée, puisqu'on passe notre temps à être happé par ce monde, Et il nous trompe, ce monde. Tu comprends? On est là. Ouais, HM, HM. Viens, on va sortir. Dans 10 minutes, on a tout oublié. Le monde, il va nous zapper, les histoires, les machins. Alors, là, au moins, on le sait maintenant. Peut-être d'une manière, d'accord, intéressée, on va arriver, Bezrat HM, Bémet, à dire, ben, je ressemble un petit peu à HM.
Mais au début, on se ment.
C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est vraie. T'as raison, c'est vrai. Mais de toutes les façons, on est des menteurs. Autant mentir dans le bon.
Alors maintenant, des cas comme des tueurs en série, des pédophiles, j'en sais rien, oui. On a vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que la mort. Parfois, on se dit ça. Ouais. On peut pas juger comme ça.
On peut pas juger positivement des gens comme ça.
Tu peux dire. Écoute, l'autre il a volé la brebis du pauvre, franchement.
Est-ce que... même dans un jugement,
je sais pas. Peut-être pas. Je te réponds, je sais pas, peut-être pas. Je sais pas. Est-ce que ça marche avec des juifs? Parce que je vais te dire quelque chose. Il y a marqué que on a. Ça répond à ta question, tiens. On a nos ennemis, on a les gens qui nous font du mal et machin et compagnie. Alors on va passer notre temps à dire c'est des pourritures, c'est nos ennemis, c'est nos machins. Mais si tu regardes les textes, et Rabbi Nachman et tous les rabbinim, ils en parlent beaucoup de ça, les tzadikim, si tu t'approfondis un petit peu, en réalité, nous sommes notre propre ennemi. C'est-à-dire, les ennemis, pourquoi ils se dressent contre le Ham Israël? C'était la paracha de la semaine dernière. Parce qu'on ne fait pas Torah au mitzvot. Donc on leur donne, tu comprends, quelque part, un bâton pour nous frapper. Parce que quand nous, ben regarde comme c'est beau, quand on a, nous, que Dieu préserve des catastrophes nationales, tout de suite, HM, c'est terrible. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors que si maintenant nous tous, on était dans Torah au mitzvot, automatiquement, on ne serait pas dominé par les autres nations. C'était la paracha de la semaine dernière, quand Yaakov et Esav, ils sont nés, et qu'il a tenu par le talon, d'accord? Ça veut dire que tant que Yaakov, il est dans le derer, d'accord, d'Hachem, tant qu'on est attaché à Torah, au mitzvot, et qu'on essaye chacun de se rapprocher d'Hachem, eh ben, les nations ne peuvent pas, si tu veux, nous écraser. Mais quand maintenant, on est tous très occupés à ressembler à des goïms, d'accord, qu'on croit que c'est une grande... C'est une gava, c'est un orgueil de ressembler à un goï. Faire les mêmes activités que les goï, manger comme les goï, s'habiller comme les goï, tout ce que tu veux. Et bien, quand on fait ça, ben le goï, il prend de la force et c'est lui qui nous écrase. Donc, pour répondre à ta question, à vos questions, si, ça veut dire, on a, nous, un travail à faire. On n'est pas là maintenant pour juger, on n'est pas là pour faire. Nous, on est là pour faire tchouva. Nous, on est là pour se sanctifier, pour se purifier, pour devenir des personnes meilleures. Et laisse faire Hachem. Hachem, c'est lui qui va juger son monde. Voilà, j'espère. C'était dur cette semaine, hein? Très dur. Mais écoute, on va y arriver doucement, doucement. Rappelle-toi, l'essentiel, c'est pas le résultat. L'essentiel, c'est la volonté. Déjà, on va sortir d'ici, on va dire, Hachem, aide-moi à pouvoir bien juger dans quelle que soit la situation. Aide-moi à pouvoir faire ça. Voilà, on va demander. On va passer notre semaine à demander à Hachem. Oui. La Torah 113. Bon, on fera la semaine prochaine la Torah qu'on avait, je voulais faire pour aujourd'hui. La 113.
C'est quoi?
Lui, écoutez-moi, Aran. Ah, c'est le livre. La livre de Rabbi Nachman. C'est l'œuvre maîtresse de Rabbi Nachman. D'accord? Donc, semaine prochaine, on fera l'autre. Hein, je voulais faire aujourd'hui.
Mais c'est quoi ce livre?
Ça, c'est l'œuvre maîtresse de Rabbi Nachman. C'est les Torahs, c'est des Torahs, des enseignements que Rabbi Nachman a écrits.
Dans
oui, bien sûr. Ben, si vous en voulez, vous m'en commandez, je vous en ramène. Il coûte 200 shekels. Il y en a pour celles qui veulent l'avoir aujourd'hui même. Au centre Breslev à Tel Aviv, Rehov est là. Vous l'avez aussi, d'accord? Hein? Ben voilà, centre Breslev à Elat. T'habites là-bas?
Mon frère, il habite
là-bas. Ah ouais, je consulte juste en face. À Rehov est là, je suis au 41 chez Sacha. J'ai mon petit bureau là-bas le mercredi.
Mon frère, il habite à Elat.
Ah oui?